podcast RFHT.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast qui est une édition spéciale de la revue francophone d'hémostase et thrombose. Et j'ai la joie aujourd'hui de partager cet entretien avec le docteur Mathieu Fior, qui travaille sur le site de Bordeaux, au centre de référence des pathologies plaquettaires, et avec lequel nous allons nous partager son expérience sur la prise en charge de la thrombasthénie de Glanzmann dans un contexte de grossesse, et avec les difficultés que cela peut poser. Je pense que nous aurons, après la présentation de son cas, un échange avec quelques questions pour ce cas compliqué. Mathieu, je te laisse enchaîner sur la présentation de ton cas.
Merci beaucoup, Roselyne. Donc, effectivement, alors aujourd'hui, je voulais vous parler du cas d'une patiente que j'avais été amenée à voir il y a quelques années dans notre service. Donc, nous, on l'a connue assez tardivement, en fait, dans la prise en charge de sa thrombasthénie Glanzmann, puisqu'elle était suivie dans une autre ville auparavant. Mais vers l'âge de 35 ans, elle est donc venue nous voir pour la prise en charge de sa pathologie et le suivi de sa pathologie. Donc c'est une patiente qui, dans sa vie de malade, si je puis dire, n'a jamais eu vraiment de symptomatologie hémorragique très, très importante. Elle a été diagnostiquée de sa pathologie à la naissance sur des ecchymoses diffuses et elle a une thrombasthénie de Glanzmann plutôt classique, puisqu'elle a une thrombasthénie de Glanzmann de type 1 avec une absence d'expression du complexe à la surface des plaquettes. Et une analyse génétique avait été réalisée qui avait permis de mettre en évidence deux mutations tronquantes dans le gène ITGA2B, une mutation d'épissage et un codon stop. En fait, son seul épisode hémorragique vraiment catastrophique, si je puis dire, ou cataclysmique, c'était vers l'âge de 4 ans où elle a présenté une hémorragie trachéale massive qui avait été traitée à l'époque par des concentrés de plaquettes et elle avait reçu aussi des globules rouges. C'est au décours de cet épisode hémorragique que ont été découverts les anticorps anti-GP2B3A qui, au fil du temps, ont diminué en termes d'intensité, mais pour lequel persistait toujours une faible positivité, alors que les anticorps anti-HLA de classe 1 avaient toujours été négatifs. Donc, vers l'âge de 30 ans, bien sûr, elle a eu un désir de grossesse. Donc, en accord avec notre équipe et en discutant notamment avec les obstétriciens, en expliquant à la patiente les différents risques pour elle, mais également pour l'enfant à naître, on a convenu d'interrompre la contraception orale en expliquant bien à la patiente également à quel risque elle était exposée à la suite de cet arrêt de contraception, puisque nous n'aurons plus que les traitements hémostatiques purs pour essayer de gérer donc ces ménorragies au cours de ces différents cycles. Donc, on s'était dit qu'on allait éviter autant que possible dans ce contexte de possible relance donc de son immunisation anti-GB2B3A, d'essayer d'éviter le plus possible de devoir recourir aux transfusions de plaquettes et d'utiliser les autres moyens hémostatiques. Donc bien sûr, il faut essayer de que ces patientes puissent débuter leur grossesse dans les conditions les plus optimales possibles, et notamment éviter qu'elles soient déjà en anémie, par exemple ferriprive, comme c'est souvent le cas dans cette pathologie. Et donc régulièrement, on contrôlait donc sa numération sanguine pour essayer de traquer l'anémie et éventuellement de la corriger par une supplémentation martiale. Elle a mis du temps à être enceinte et au bout de 12 mois d'ailleurs, elle n'était toujours pas enceinte. Et donc devant cette infertilité primaire, en accord avec les gynécologues et les obstétriciens, on a convenu de réaliser une échographie pelvienne et une hystérosalpingographie pour justement essayer de comprendre pourquoi il y avait cette difficulté à débuter une grossesse. Donc en fait, ce qu'ils ont retrouvé, c'est qu'il y avait des caillots sanguins qui étaient présents dans l'utérus, probablement en lien en fait avec les ménorragies qu'elle avait régulièrement. Donc on a convenu avec eux de retirer ces caillots sanguins par hystéroscopie. Donc on a essayé d'utiliser le moins possible les transfusions de plaquettes et on a donc réalisé ce geste d'hystéroscopie sous couverture de facteur 7 activé recombinant. Finalement, l'approche a été efficace puisque elle a pu débuter une grossesse, mais malheureusement, elle a fait une fausse couche à 7 semaines d'aménorrhée, pour lequel on a posé l'indication de réaliser un curetage également sous couverture de facteur 7 activé recombinant avec l'acide tranexamique. Et on est plutôt parti sur un geste chirurgical plutôt qu'un traitement médicamenteux de cette fausse couche pour justement vérifier que l'extraction complète de l'embryon par la suite, on a également proposé une surveillance échographique systématique pour s'assurer qu'il y avait une absence de produits résiduels intra-utérins qui pourraient favoriser la persistance des saignements. Finalement, quelques mois après sa fausse couche, elle a pu débuter une nouvelle grossesse et cette fois-ci, la grossesse s'est poursuivie au-delà du premier trimestre et on a donc convenu, compte tenu de ses antécédents d'anticorps anti-GP2B3A, du fait de la possibilité par la grossesse elle-même de relancer son immunisation, de faire des contrôles rapprochés, mensuels, du niveau d'immunisation contre la glycoprotéine GP2B3A. En fait, heureusement, ces anticorps sont restés faiblement positifs pendant toute la grossesse et ne se sont pas réactivés ou relancés. Et du coup, aucun traitement n'a été initié, en tout cas pour essayer de maîtriser cette relance, une éventuelle relance immunitaire. On a quand même convenu de surveiller attentivement par des échographies obstétricales que la croissance du fœtus se faisait normalement et qu'il n'y avait pas de signe d'hémorragie. Et le reste de la grossesse, finalement, s'est déroulé sans incident et n'a pas nécessité de traitement hémostatique. Donc, il a fallu préparer l'accouchement de cette patiente, et ça a reposé bien sûr sur une discussion pluridisciplinaire avec les anesthésistes, les obstétriciens et nous-mêmes, pour discuter notamment sur le mode d'accouchement. Pour elle, on avait convenu qu'un accouchement par voie basse était possible et a priori sans déclenchement. La patiente habitait à proximité du centre hospitalier universitaire, donc pouvait accéder facilement à la maternité. Et bien sûr, on a établi un protocole détaillé pour le jour de l'accouchement, avec comme traitement hémostatique, donc en première intention, l'utilisation du facteur 7 activé recombinant, étant donné le contexte. On avait également convenu que les accouchements, l'accouchement instrumental devait être utilisé uniquement en cas d'extrême urgence et par des spatules, car avec les ventouses, il y avait quand même un risque de céphalhématome. Donc, bien sûr, on précisait dans le protocole qu'il fallait éviter les techniques invasives sur le nouveau-né, type pH au scalp ou ce type de prélèvement, dans la mesure où, même si l'immunité ne s'était pas relancée, on n'avait pas d'informations quant à la présence ou non d'une thrombopénie possible chez l'enfant. Donc finalement, le travail a commencé spontanément à 39 semaines d'aménorrhée. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais nous avions formellement contre-indiqué l'analgésie loco-régionale type péridurale. Et donc, la patiente à visée antalgique bénéficiait d'une pompe à morphine qui était contrôlée par elle-même. Donc encore une fois, on avait décidé de partir en première intention sur l'utilisation du facteur 7 activé recombinant, mais on avait quand même convenu avec l'établissement français du sang de disposer au sein de la maternité de concentrés de plaquettes au cas où le facteur 7 activé recombinant n'aurait pas été efficace dans les premières administrations, et donc de disposer de concentrés plaquettaires si besoin. Donc finalement, la patiente a accouché d'une petite fille de 3,560 kg, et dans les 5 minutes après l'accouchement, une première dose donc de facteur 7 activé recombinant à une dose habituelle de 90 microgrammes kilo a été administrée en même temps que de l'ocytocine et 1 gramme d'acide tranexamique. Donc, ce qu'on avait fait, c'est avec les obstétriciens, on avait décidé de mettre en place une poche collectrice pour pouvoir estimer du mieux possible les pertes sanguines. Et juste après l'accouchement, elle avait perdu 550 ml, ce qui a conduit l'équipe obstétricale à décider de faire une anesthésie générale pour permettre notamment une révision utérine et vérifier, s'assurer de l'extraction manuelle complète du placenta et notamment d'essayer de voir s'il n'y avait pas des lésions qui auraient pu provoquer ce début d'hémorragie du postpartum. Donc ça a permis quand même l'élimination de retirer plusieurs caillots sanguins. Ils ont refait une administration d'ocytocine. Il y avait également une plaie au niveau du périnée, donc de premier degré, qui avait été suturée. Et nous, de notre côté, au départ, on était parti sur plutôt un espacement des doses toutes les 3 heures. Et bien, on a avancé l'administration à 2 heures plutôt qu'à 3 heures, et on a augmenté un tout petit peu la dose. On est passé à 120 microgrammes kilo. Toujours est-il que finalement, les concentrés, les choses se sont plutôt améliorées, et donc on n'a pas eu besoin d'avoir recours aux concentrés plaquettaires. La patiente a été surveillée en soins intensifs, et au total, au final, elle avait perdu 750 ml avec un taux d'hémoglobine qui était resté dans les valeurs tout à fait correctes, puisqu'elle était à 10 grammes par décilitre. Donc finalement, on a fini par administrer donc une dernière dose 3 heures après la seconde. Cette fois-ci, à une dose légèrement plus basse que la deuxième, on est revenu à 90 microgrammes kilo. Et ensuite, on a surveillé la patiente. Alors, dans le contexte d'immunisation, on a bien sûr, on s'est assuré au sang du cordon par un prélèvement que l'enfant à naître n'était pas thrombopénique, ce qui, si ça avait été le cas, bien sûr, nous aurait éventuellement incité à discuter la réalisation d'une échographie transfrontanellaire en fonction, bien sûr, de l'importance de la thrombopénie, et éventuellement discuter d'une transfusion si vraiment celle-ci avait été très profonde. Mais là, en l'occurrence, l'enfant n'était absolument pas thrombopénique. Donc, on a poursuivi l'acide tranexamique sur une durée totale de 10 jours. Une contraception orale a également été instaurée à base de progestatifs purs. Et finalement, après 4 jours de surveillance, la patiente est sortie d'hospitalisation et il n'y a pas eu d'hémorragie du postpartum secondaire. Cependant, j'insiste sur le fait que dans cette pathologie, il peut y avoir des hémorragies assez tardives, et donc il faut vraiment bien sensibiliser la patiente, les équipes obstétricales sur le fait que c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà ce que je pouvais vous dire à peu près sur ce cas. Donc j'imagine, Roselyne, que tu as des questions à me poser.
Écoute, merci beaucoup Mathieu. Ce sont des cas qui sont quand même assez exceptionnels, et ces personnes confrontées à ces situations, c'est toujours très délicat de prendre les indications. Et finalement, même s'il y a peu de données qui viennent argumenter de façon très claire les attitudes que l'on pourrait avoir, ce qui me paraît très intéressant, c'est de voir un peu quels étaient les arguments qui ont été utilisés à différents points d'étape importants et qui ont conduit au choix que vous avez fait. Alors, la première chose, effectivement, ne pas relancer l'anticorps lorsqu'il y a un projet de grossesse, ça Ça me paraît une bonne attitude. Ma question est plutôt sur, finalement, une fois que la grossesse a été obtenue, sur la poursuite de la surveillance du statut d'immunisation et donc des potentielles conséquences de cette immunisation. Comment est-ce que vous avez arbitré entre le fait de ne pas aller vers un traitement préventif systématique par des immunoglobulines intraveineuses? Un peu comme on peut le discuter dans des incompatibilités de groupes plaquettaires. Et pourquoi avez-vous fait ce choix de ne pas en fait introduire ce type de stratégie?
Alors, c'est vrai que c'est vraiment, je pense, l'attitude la plus difficile au cours de la gestion de ce type de grossesse. En fait, alors peut-être qu'on était faussement rassurés, mais c'est vrai que on s'était dit que voilà, il restait une faible positivité des anticorps anti-GP2B3A et que on s'était dit que a priori si ces anticorps restaient à peu près stables au cours de la grossesse, c'était plutôt un argument rassurant sur le fait que probablement l'immunisation n'était pas relancée. Alors, bien sûr, c'était une question qu'on s'était posée, hein, l'utilisation des immunoglobulines plus ou moins associées à des corticoïdes. Mais comme tu le sais, ça reste quand même une intervention assez lourde, puisque c'est des injections qu'il faut répéter toutes les semaines chez les patientes. Tout dépend de la date où on l'introduit, mais c'est souvent de manière assez précoce, ou en tout cas entre 20 et vers 20 semaines d'aménorrhée. Donc c'est des décisions qui sont pas tout à fait simples. Là, on a pensé que peut-être que le bénéfice n'était pas, à notre sens, suffisant pour pouvoir proposer ce type de thérapeutique, d'autant plus que, bon, comme tu le sais, ça reste quand même empirique.
Oui,
Voilà.
bien sûr,
Il
oui.
n'y a pas eu d'études, il n'y a pas eu, même dans les allo-immunisations, ça reste encore un petit peu un sujet de débat. Donc voilà, je pense que très clairement, si on avait vu que les anticorps commençaient même à monter un tout petit peu, on se serait pas posé la question. On aurait très probablement proposé, en tout cas, voilà, parce qu'après c'est une discussion aussi à avoir avec la patiente, ce type d'intervention. Mais voilà, on s'était dit que la surveillance régulière des anticorps plus les échographies par des échographes de référence, ça pouvait.
Mais en
Ça
fait,
pouvait.
l'échographie, elle va objectiver, a priori, une problématique d'un saignement déjà existant. Donc, on
C'est
arrive
sûr.
après un
C'est
événement
sûr.
sévère. L'autre question que je me posais, c'est est-ce qu'en fonction de la mutation, on peut s'attendre à des risques différents de réapparition de l'immunisation? Elle avait donc été hétérozygote composite sur deux variations génétiques sur le gène ITGA2B. Est-ce que ça a peut avoir un impact. Est-ce que tu aurais eu la même attitude sur d'autres mutations, ou est-ce que on n'a pas suffisamment
Alors
d'éléments
oui,
pour
nous,
parler?
nous c'est des éléments qu'on prend en compte. Alors c'est pareil, hein, à l'heure actuelle, on a trop peu de données pour être certain que ça joue un réel rôle de facteur de risque d'immunisation dans cette pathologie, comme on peut le voir par exemple dans l'hémophilie. On a quelques arguments qui tentent à faire penser qu'effectivement, probablement ces sujets sont plus à risque que ceux qui seraient porteurs de mutations faux sens, par exemple. Donc oui, c'est quelque chose qu'on va prendre en compte. Probablement, on serait moins agressif, entre guillemets, chez quelqu'un qui n'aurait pas ce type de mutation.
Et en ce qui concerne le choix du mode d'accouchement, c'est de la même façon, on voit aussi parfois plutôt des choix qui s'orientent vers une césarienne programmée, ce qui veut dire bien sûr une anesthésie générale compte tenu de la contre-indication, comme tu l'as indiqué, d'une anesthésie loco-régionale, puisque c'est compliqué de déclencher une patiente sans ce type d'approche, mais finalement, quels seraient les arguments plutôt permettant d'autoriser une voie basse ou plutôt orientant vers une césarienne en fonction des profils de patientes? Qu'est-ce qui, chez vous, a penché pour la balance de la voie basse?
Bah après, c'est vraiment avant tout, j'ai envie de dire quand même une décision assez obstétricale. Là, a priori, enfin pour les obstétriciens, il n'y avait pas de difficulté à faire accoucher la patiente par voie basse. La césarienne, est-ce qu'il peut éventuellement décider de la césarienne? Ça peut être bah, si on veut vraiment que les choses soient vraiment beaucoup plus programmées, par exemple, si on a effectivement un enfant, enfin une patiente pour lequel on va dire qu'il y a eu une forte immunisation au cours de la grossesse ou qu'une immunisation s'est relancée, qu'on l'a traitée par des immunoglobulines, enfin voilà, pour laquelle on a quand même une forte suspicion de la possibilité d'une thrombopénie néonatale. Bon, bah, ça peut, pour les obstétriciens, ça peut être un certain confort d'effectuer plutôt une césarienne. Donc, ça va être vraiment une discussion au cas par cas. En tout cas, à l'heure actuelle, je pense pas que on puisse dire que l'accouchement par voie basse ou un accouchement par césarienne, en termes de risque hémorragique, en tout cas. Que l'un est plus à risque que l'autre. Donc, c'est vraiment plusieurs paramètres à prendre en compte dans la décision finale, quoi.
Pour la couverture de l'accouchement, donc vous avez fait le choix du CETA. Rétrospectivement, donc elle a saigné un petit peu, de façon un petit peu plus anormale qu'une autre femme, conduisant à cette révision utérine avec donc la présence de pas mal de caillots. Est-ce que rétrospectivement, tu te dis que peut-être tu aurais, pour la première dose en tout cas, peut-être dû booster un peu la dose de CETA pour encadrer les tout premiers instants. Si jamais elle était à nouveau enceinte, qu'est-ce que tu ferais?
Oui, très, très, très probablement, c'est très, très juste comme remarque. Oui, on peut se dire que la première dose administrée était sûrement peut-être insuffisante et qu'il aurait fallu peut-être d'emblée commencer fort, quitte à diminuer par la suite. D'autant plus que là, on a vu qu'en augmentant un tout petit peu la dose de 30 microgrammes, ça avait permis de faire rentrer un peu les
Et de
choses,
bien contrôler les choses.
ouais, de faire rentrer les choses dans l'ordre, ouais.
Et en termes de situation prothrombotique, quelle serait la place des anticoagulants préventifs? Est-ce que tu penses qu'il y a un intérêt ou au contraire que ça reste plutôt contre-indiqué dans le contexte?
Alors, contre-indiqué, je ne sais pas, mais ouais, il faudrait vraiment qu'il y ait des gros facteurs de risque surajoutés pour pouvoir me dire derrière que je vais proposer une prophylaxie antithrombotique. Personnellement, ça resterait, je pense, plutôt assez exceptionnel. Enfin,
Bon, je pense que je serai du même côté que toi là dans,
ouais, parce que
sur cette
bon après tout dépend du contexte. Hein. Encore une fois, si c'est une patiente qui reste alitée pendant 5 jours, qui a une obésité ou qui peut-être même elle-même a déjà thrombosé par le passé, voilà, je m'interrogerais. Mais bon, quand ça se passe plutôt bien comme ça et que la patiente peut sortir rapidement, quand bien même il y aurait une indication de prophylaxie antithrombotique, je ne suis pas sûr que je la mettrais en systématique, quoi.
Une dernière question concernant la reprise d'un traitement hormonal. Si j'ai bien compris, elle a repris au bout d'une dizaine de jours. Certaines
La
équipes,
contraception?
oui, le traitement
Non, non,
hormonal
la
est
contraception, elle
accéléré.
a repris. Alors, j'ai pas été clair. La contraception, elle l'a
Ah, pardon.
reprise assez rapidement après l'accouchement. Et c'était une contraception microprogestative dans mon souvenir. Ouais.
D'accord. C'était juste la question du délai par rapport à l'accouchement.
Non, non,
On
non,
sait
non.
que démarrer assez vite peut éventuellement aider à diminuer un petit peu les hémorragies
Ouais.
secondaires, donc
Ouais.
ça
Tout à
peut
fait.
avoir éventuellement donc un intérêt. Mais je pense que nous avons un peu épuisé notre temps qui s'est un peu prolongé. En tout cas, merci infiniment Mathieu de cette du partage de ce cas clinique, très instructif, je pense, à divers titres. Merci à tous. Au revoir.
Merci, à vous. Au revoir.
Podcast RFHT.